Bienvenue dans Infirmière de novice à experte, le balado qui accompagne les étudiantes en soins infirmiers et les jeunes infirmières dans leur parcours professionnel.
Nous sommes Sylvie
et Karine,
deux enseignantes passionnées par la formation infirmière de demain.
Dans chaque épisode, on explore les défis, les apprentissages et les réalités de la profession infirmière.
Que vous soyez encore étudiante ou que vous débutiez votre carrière, nous sommes là pour vous guider et vous inspirer à devenir une experte dans votre pratique.
Alors, mettez vos écouteurs,
prenez un café et c'est parti pour un nouvel épisode d'Infirmière de novice à experte.
Bonne écoute! Salut Sylvie!
Salut Karine, comment ça va?
Ça va bien, je suis un peu stressée, c'est notre premier balado.
Ben oui. Mais je pense que c'est quand même quelque chose qu'on va avoir beaucoup de plaisir à faire. Puis je pense que les étudiants vont être contents de nous entendre parler des soins infirmiers.
Oui, puis novice à experte, là, pour moi, ça va être vraiment quelque chose qui est pour eux, qui est ciblé pour leur permettre de cheminer dans leur début de pratique, qui est vraiment challengeant, on va se le dire, là, quand on commence à pratiquer, hein.
Ah, tout à fait. Mais c'est quoi ton parcours comme infirmière?
Moi, j'ai travaillé comme j'ai commencé à être prof, moi, bien, bien vite, hein. Fait que j'ai commencé à être prof après 2 ans de pratique infirmière. Fait que je me suis développée dans deux professions en même temps. Donc, j'ai un parcours assez atypique dans ce sens-là. J'ai travaillé en plein de domaines en tant qu'infirmière. J'ai toujours travaillé comme infirmière, mais j'ai commencé à enseigner très, très vite. Donc, je me suis sentie novice très longtemps, je dois dire, très débutante longtemps dans cette pratique-là. Puis là, maintenant, ça va faire, bon, j'enseigne depuis 2011, 2011-2010. Donc, ça fait quand même un bon 13, 14, 15 ans là, que je suis dans ce milieu-là. Oui. Toi, Sylvie, comment tu es arrivée ici aujourd'hui?
Ben moi, je suis plus experte que novice, je vais dire. J'ai fêté mon 30e anniversaire cette année. Donc, ça fait
Ah,
30 ans
bravo!
que je suis infirmière. J'ai gradué en 1994. Donc, dans les jeunes, il y en a qui n'étaient même pas au monde, puis je commençais à travailler. Mais ça a été une passion pour nous, chez nous, dans notre famille, ça a été une passion de mère en fille. Parce que ma grand-mère était garde-bébé dans le temps. Ma mère a été infirmière, elle a été coordonnatrice de soins. Après ça, ben, il y a moi, mes filles sont aussi infirmières. Donc, pour nous, je pense que les soins infirmiers, ça fait partie de la famille, moi. Donc, j'ai commencé, ben, comme toi, là, tu sais, sur différents milieux. Puis, c'était comme pas évident. Je veux dire, en 94, on n'avait pas d'endroit vraiment pour aller travailler. Moi, je suis allée faire une entrevue à Mont-Laurier. Je restais à Trois-Rivières parce qu'il n'y avait pas d'emploi. Ça n'existait pas. Il n'y en avait quasiment pas. Donc, comparativement à aujourd'hui où on peut aller travailler à peu près n'importe où.
Ah,
Ensuite de ça, je me suis ramassée, pas ramassée, mais j'ai commencé à faire de l'enseignement à partir de 2002. Donc, ça fait déjà 20 quelques années aussi que j'enseigne. Donc, aussi à nous promener. Puis, oui, c'est vrai que tu avais raison. J'aime bien quand tu dis, on est novice à chaque fois qu'on change de milieu. Puis, c'est vrai parce que chaque milieu a ses particularités. Donc, c'est sûr que la base va rester la même, mais il faut apprendre et réapprendre soit le milieu, le type de chirurgie ou le type de pathologie. Donc, il va falloir toujours s'améliorer puis se former par rapport à ça. Donc, oui, on est novice, on est expert, puis on est expert jusqu'à temps qu'on redevienne novice. Donc, fait que je pense que c'est une roue qui tourne. Qu'est-ce que tu en penses?
Bien, c'est vraiment une roue qui tourne, puis je trouve ça super important qu'on le mette en relief aujourd'hui parce que en commençant notre balado, c'est un peu ça qu'on veut faire, c'est normaliser ce processus-là d'intégration dans une nouvelle profession, se développer en tant que nouveau professionnel, se donner le droit d'être en position d'apprendre aussi, tu sais. C'est vraiment challengeant quand on change de pratique ou quand on commence là, comme infirmière. Il faut se donner le droit d'apprendre puis de se mettre en posture de novice aussi. C'est-à-dire que ça va prendre un petit peu de temps avant qu'on devienne experte. Puis ça peut prendre plusieurs années là, avant d'être experte. Quand est-ce que tu as commencé à te sentir experte, Sylvie?
J'ai commencé à me sentir experte après 5 ans, je te dirais. 5, 6 ans que j'étais sur le marché. Tu sais, j'avais travaillé en chirurgie beaucoup, un peu faire de soins intensifs. Puis à un moment donné, quand les gens, les infirmières plus jeunes venaient me voir pour me demander des réponses, c'est là où j'ai commencé à dire, ah, peut-être que là, je ne suis plus une novice. On compte sur moi, on pense que j'ai des réponses qu'eux n'ont pas. Fait que ça a commencé tranquillement comme ça. Puis après ça, une dizaine d'années après, là, on disait que oui, là, je pouvais dire que j'étais une experte dans mon domaine, malgré que j'en apprenais à tous les jours. Il y avait tout le temps quelque chose de nouveau. Il y avait tout le temps une pathologie qui arrivait, mais on avait mis un antécédent supplémentaire, puis là, qui faisait en sorte que c'était un peu différent. Quand je suis tombée en enseignement, bien là, je suis tombée vraiment une novice. Même si j'avais full compétence en soins infirmiers, la pédagogie des soins infirmiers, c'est complètement autre chose. Fait que pour moi, j'étais vraiment novice. Et là aussi, ça a pris un bon 5-7 ans avant que je sois en mesure de dire que j'étais une enseignante en soins infirmiers. Je pense que c'est là où j'ai fait le switch de dire, ah, je suis plus une infirmière, mais je suis plus une pédagogue en soins infirmiers. Puis ensuite de ça, bien, quand tu es sur un département, que tu es toujours sur le même département, moi, j'ai fini en gastro-entérologie, où mes patients, ça devient de la routine. Donc, peu importe le patient que je prenais, c'était à peu près toujours la même chose. C'était toujours un post-op, ou c'était toujours une complication. C'était toujours un patient qui avait eu un HIV. Donc, pour moi, c'était des patients qui étaient récurrents que je voyais à chacune des sessions. Donc, je pouvais
Tu
déjà
connais
anticiper.
la recette. Excuse-moi. Tu connais la recette, là, après un certain temps je veux pas dire que les patients sont tous des recettes, mais on comprend le parcours ordinaire d'un patient, puis ça devient instinctif un peu plus, là, nos soins avec ces patients-là, avec le temps.
Exact. Donc, tu sais, je m'attache. Si je donnais un patient à une étudiante, je sais très bien que c'est un post-op. Qu'est-ce que je m'attends à ce qu'elle fasse comme suivi post-op, comme évaluation, comme intervention? Parce que pour moi, c'est de la routine. C'est peut-être le 40e patient post-op que je vais donner à une étudiante. Ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des complications. On va toujours être à l'affût de ça. Mais c'est comme ça qu'on dit, à un moment donné, oups, qu'on change notre chapeau puis qu'on va devenir davantage des experts. Donc, puis on est vraiment en pédagogie. Donc, l'objectif, en tout cas pour moi, quand j'enseigne, c'est vraiment d'essayer d'aider à comprendre les choses et non pas juste faire les affaires pour faire ça. Donc, tu
Oui.
sais, pourquoi tu prends ta tension artérielle? Ben, parce que le médecin l'a demandé. Ouais, mais tu sais quoi, là? Vas-y là un peu plus loin. Qu'est-ce que ça va te donner comme information? Quand tu comprends les choses, ben, ça fait du sens. C'est là que tu vas développer ton jugement.
C'est ça qu'on va essayer de mettre de l'avant, en tout cas, je pense, dans ce balado-là, la compréhension de certains concepts, l'importance de développer son jugement clinique aussi pour cheminer dans notre parcours comme infirmière, là. En tout cas, moi, c'est des choses que je trouve super importantes en début de pratique, c'est de focusser sur ces éléments-là qui vont nous permettre d'être plus solides là, sur les étages.
Toi, selon toi, c'est quoi le jugement clinique? D'avoir un bon jugement clinique, c'est quoi?
Ah, c'est une grosse question, ça, mais je te l'aurais presque plus demandé, Sylvie. T'as plus l'habitude de l'expliquer, le jugement clinique, que moi, mais tu sais, c'est tout le raisonnement de l'infirmière. On ne prend pas des décisions au hasard. Nos décisions sont basées sur plusieurs choses, sur nos connaissances, sur l'expertise qu'on a développée et l'analyse qu'on fait des éléments qui sont devant nous. Fait que le jugement clinique nous permet de prendre ces décisions-là puis de guider nos soins, là. Donc, c'est pas une petite explication. Je suis pas articulée assez. Je vais te laisser répondre à ta propre question, presque.
Parce que si c'est si difficile, ça veut-tu dire que les étudiants, quand ils commencent, ils n'ont pas de jugement clinique?
Tu veux dire, c'est qu'ils n'en ont pas du tout?
Non, ben, parce que tu sais, on a de la difficulté à nommer c'est quoi du jugement clinique. Donc, ça veut dire que nos étudiants ou les jeunes infirmières qui commencent, ça veut-tu dire qu'ils n'ont pas de jugement clinique?
Mais je pense qu'ils développent, ils ont un jugement. Mais est-ce que c'est un jugement clinique qui est consolidé? Non. Mais je pense qu'on a toujours une capacité de prendre des décisions, tu sais. C'est une pensée qui est logique au bout de la ligne, là. Fait qu'il faut valoriser ça, mais après ça, il faut la consolider avec nos connaissances puis ce qu'on développe.
Donc, on pourrait dire que c'est du jugement clinique de novice.
Oui.
Nous, on a
Exactement.
du jugement clinique d'expert.
Ah, c'est vrai. C'est vrai, vu de même.
Puis souvent, les étudiants, c'est ce qu'ils nous disent, ah, on n'a pas de jugement. Non, vous en avez, mais vous avez un jugement de base. Donc, allez solidifier vos bases. C'est ça qui va faire en sorte qu'après, on va pouvoir ramener puis rajouter de l'information sur ce que vous avez déjà construit. Donc, ça, c'est important. Le jugement clinique, il va se développer avec le temps. Ça ne s'achète pas, ça ne s'apprend pas, ça se construit comme on construit une maison. Donc, si on a un bon solage, après ça va être facile de rajouter de l'information puis de devenir un expert dans un domaine en particulier.
Oui. Moi, le balado, puis qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, puis notre discussion aussi, là, ça me rappelle vraiment quand j'ai commencé à pratiquer comme infirmière, là. J'ai toujours été quelqu'un qui avait beaucoup confiance en soi. Je me suis jamais. Moi, je me remets pas en doute beaucoup dans la vie. C'est ma qualité ou mon défaut, je sais pas, un des deux. Mais quand j'ai commencé à travailler, rapidement, je me suis sentie confortable. Puis. Avec ce confort-là, vient des défis au quotidien. Puis tu dis, mais pourtant, je suis assez confortable sur mon département, je devrais être capable de gérer telle chose. Puis là, à un certain moment, avec des défis, avec des patients qui allaient pas bien, qui crashaient, tout ça, je me suis vraiment demandé, tu sais, coudonc, je suis peut-être overconfiante, là. Karine, gère-toi un peu. Puis il y avait une collègue, pas une collègue, mais une conseillère en soins qui avait sorti. Le libellé de novice à experte. Donc, ça, c'est écrit par elle là. Corrige-moi si je me trompe, mais Bénère, c'est ça?
Patricia Bonheur.
Donc, elle avait sorti ça pour normaliser ce que les CP vivaient comme processus, comme progression là, en arrivant sur les départements. Puis, en regardant ça, mais ça décrivait les phases à laquelle l'étudiant, pas l'étudiante, mais la CP va progresser là, au travers de son cheminement d'intégration. Puis, tu voyais que ça prenait plusieurs années avant de te rendre à la prochaine phase, tu sais. Donc, à devenir même pas experte, là. L'autre avant, je pense que c'est compétent ou je me rappelle plus des termes exacts, là. C'est pas ça qui est important, mais plus tu chemines, plus t'es compétent puis t'es solide. Puis ça prenait plusieurs années avant d'être solide comme ça. Je disais, mais mon Dieu, t'es tout ce temps-là. Puis ça, c'est si tu changes pas de département. Puis que tu restes toujours dans les mêmes tâches, puis dans le même genre de patients, puis tout ça, tu vas construire une expertise sur 5 ans environ. Mais si tu changes toujours, si justement, t'es, puis là, nos étudiants, là, puis nos CP maintenant, ils ont plus la même réalité que nous, là. Des fois, ils se mettent sur l'équipe volante très rapidement, des intégrations de 10 jours d'orientation, donc c'est très, très vite, là, cette formation-là, mais. Avant que tu te sentes solide sur tes pattes, c'est normal que tu trouves ça dur, ton intégration. Puis j'espère qu'on soit en mesure de vraiment normaliser ça. En tout cas, moi, ça m'a pris du temps à me sentir solide sur mes pattes après que j'ai été challengée dans ma confiance, là, hein, parce que j'étais confiante au début. Je me trouvais bien bonne, là. Mais ça arrive vite que tu frappes ton mur des fois, là. Fait que.
Effectivement, ben moi aussi, c'était la même chose. Mais tu sais, puis quand on devient expert, c'est la journée, je pense, où on est en mesure de pas être capable d'expliquer. Parce que moi, je me suis servi beaucoup de novice à expert de Patricia Bénard quand j'ai fait ma maîtrise en soins. Parce que je travaillais sur l'évaluation des compétences. Avec Patricia Bénard, ben c'est justement ça, de voir la compétence avec le temps. Puis, ce que je me suis rendu compte, c'est que lorsqu'on est expert, c'est qu'on n'est pas capable d'expliquer les choses parce que ça devient inné. On le fait parce que c'est normal, on faut faire ça, mais on n'est pas capable d'aller décortiquer le pourquoi. Donc, c'est pour ça que des fois, on a, tu sais, des infirmières qui ont plus d'expérience, des fois, ils vont dire aux jeunes, ben, pourquoi tu fais? Tu sais, il faut que tu fasses ça, c'est normal. Ben voyons, c'est évident, il faut que tu fasses ça. Non, c'est pas évident. Pour l'infirmière qui a de l'expérience, ça vient, ça fait de soi, parce que ça fait 40 fois, ça fait 150 fois qu'elle a le même type de patient. Donc, pour elle, ça devient une routine, qu'elle n'a même pas besoin de penser, ça se fait comme sur le pilote automatique. Tout ça se fait de façon automatisée. Et on se promène en auto, puis s'il y a un stop, tu vas-tu penser, ah, il y a un stop, ah, faut que je ralentisse, faut que je mette le pied sur le break, faut vraiment que j'arrête à la ligne après ça, regarder de chaque côté. On ne le pense pas. On le fait, c'est instinctif. On voit une pancarte rouge de stop, on arrête, on repart, puis des fois, on fait d'autres choses en même temps. Donc, ça devient inné. N'importe quel geste en soins infirmiers, c'est la même chose. Mais il faut l'apprendre. Si on se rappelle nos cours de conduite, c'était pas si évident que ça. Donc, Fait que quand on commence en soins, quand on commence une évaluation, quand on commence à faire une intervention, ben c'est la même chose. Il faut se laisser le temps. Parce que ce ne sera pas inné tout de suite. Il faut prendre le temps de le faire, de le refaire, de le refaire encore. Puis à un moment donné, ben on rajoute de la vitesse. Et ce que je trouve déplorable beaucoup maintenant, je pense que ça commence peut-être à se rendre compte un peu plus, c'est que les CP, les jeunes infirmières qui arrivent sur les départements, ont la même charge de travail qu'une infirmière que ça fait 20 ans qu'elle est là. Ça, je trouve que c'est difficile pour nos jeunes. Nos jeunes se découragent parce qu'ils n'ont pas la même vitesse. Ils n'ont pas la même vitesse d'exécution, mais ils n'ont pas non plus la même vitesse de réflexion. Juste de faire un plan de travail, ça peut y prendre 20 minutes. Pour une infirmière experte, ça y prend 5 minutes, c'est fait, elle est déjà partie pour faire sa tournée. Mais l'infirmière novice, elle, ça va y prendre plus de temps. Il faut lui laisser ce temps-là. Parce qu'est-ce que ça fait? Ça mine leurs compétences, ça mine leur confiance en elles. Là, ils se disent qu'ils sont pas bonnes, qu'ils sont pas ci, qu'ils sont pas ça, puis ils lâchent la profession. Ou bien non, ils vont descendre le plus possible leur corps de travail, ou ils vont s'en aller sur des départements où il y a moins de challenge, où c'est moins rapide. Parce qu'ils ne sont pas capables de suivre la cadence. Mais la cadence, elle est tellement rapide que ça leur donne pas le goût. Mais il y en a qui sont faits pour ça aussi, qui sont capables de challenger davantage. Mais la grande majorité d'étudiants, faut avoir vraiment, faut leur laisser le temps de prendre le temps de faire les choses.
C'est ça qu'on va essayer de faire, nous, en tout cas, c'est de prendre le temps avec eux, décortiquer des choses qui deviennent automatiques, de parler de leur quotidien pour normaliser ce qu'ils vivent. Puis de reconnaître que ça prend du temps de devenir solide, puis ça prend du temps de devenir experte. Donc, on est. Puis c'est la première fois que j'entends ça, Sylvie, qu'il faudrait changer les ratios pour les étudiants. Je trouve ça vraiment pas les étudiants, mais les CP. C'est vraiment une bonne idée, je trouve, parce que c'est vraiment plus demandant quand tu débutes, comme conduire une voiture. Conduire une voiture, ben tu vas peut-être pas tout de suite sur l'autoroute dans le milieu du trafic sur des caries. Tu sais, quand tu commences à conduire, tu commences sur les petites rues au début, puis après ça, tu commences sur le boulevard. Quand tu es à l'aise sur le boulevard, là, tu vas aller sur l'autoroute. Mais comme CP, ça devrait être un peu pareil, tu sais. Devoir avoir une progression là, dans la charge de travail. Puis on dirait qu'on n'a plus le droit d'être en apprentissage, on n'a plus le droit d'être de cheminer là-dedans. On est dans un monde où est-ce qu'il faut performer rapidement, où est-ce qu'on a des milieux de stage aussi ou des milieux hospitaliers qui sont hyper performants, hyper spécialisés, donc qui mettent beaucoup de pression sur nos stagiaires CP, là. Donc, il faut qu'on reconnaisse leurs besoins puis leur progression, hein. Leur besoin d'apprentissage, je pense que c'est vraiment important.
Les encadrés. Tu sais, je ne dis pas qu'ils ne sont pas encadrés, hein. Tu sais, ils sont souvent encadrés, ils ont des monitrices cliniques, tout ça, mais les monitrices cliniques ne sont pas toujours avec eux autres. Tu sais, il y a quelqu'un qui va être au téléphone ou pas loin, qui va venir les aider s'ils ont un problème. Mais une charge de 10 patients, c'est beaucoup. C'est sûr qu'ils ne sont pas tout seuls, ils ont une infirmière auxiliaire. Mais là encore, ce sera peut-être le sujet d'un autre balado, mais comment on gère les étudiants en stage comme enseignante, où on fait des soins intégraux, mais quand la réalité du travail est qu'ils vont travailler juste en équipe. Puis à certaines places, ils vont faire de l'intégro, mais pour la grande majorité, ils vont travailler en équipe. Donc, ils finissent au mois de mai, ils ont eu 3 patients en intégro, 4 patients en intégro. Puis la semaine d'après, ils s'en vont sur un département de médecine avec 10 patients. En équipe avec 2 infirmières auxiliaires et une préposée. Comment on fait pour gérer tout ça comme jeune? Ça doit être épouvantablement stressant.
Oui.
Et les étudiants qui sont ces antidépresseurs, on en voit de plus en plus. Pourquoi? Ben, c'est tellement difficile.
C'est une grosse charge de travail. Puis moi, je souligne vraiment souvent ça auprès de mes étudiants, puis des nouvelles CP là, que je croise, mais ce qu'ils vivent, là, c'est grand, c'est chargé. Il faut qu'ils se reconnaissent là, ce moment-là d'intensité dans leur vie, puis qu'ils soient bienveillants par rapport à ce qu'ils vivent. T'sais, se lever puis aller en stage, là, à tous les matins, c'est challengeant, là. T'es jamais dans une zone de confort quand tu es stagiaire ou nouvelle CP. À chaque journée, tu vas rentrer, Puis tu sais pas que ta journée va avoir l'air de quoi. Tu rentres le matin, tu regardes ton Cardex. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé à travailler, là, ou même en stage, quand je recevais mes Cardex, là, on dirait qu'avant, il fallait que tu prennes un grand respire. Puis ça, c'est comme, OK, qu'est-ce que ma journée va m'apporter aujourd'hui, là? Oh mon Dieu, il y a une contention. Oh mon Dieu, il y a un IV. Oh mon Dieu, puis là, ça s'accumulait. Tu voyais ta journée débouler, puis il fallait que tu sois capable de gérer ça rapidement, mais t'es jamais dans une zone de confort. À chaque fois, il y a des nouveautés. Fait que c'est grand ce que tu vis en tous les jours, là, c'est gros. Fait qu'il faut que tu donnes la bienveillance de dire, OK, là, je sais que c'est stressant, c'est normal que je me sente stressée. Parce que souvent, les étudiants, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils sont stressés, puis qu'ils ne devraient pas être stressés autant que ça. Puis, oh, comment ça, je suis de même, je vois les autres, ils ont l'air de bien performer. En premier, là, j'ai goût de dire que ça, c'est juste de l'image, là. Parce que c'est pas parce que je mets un selfie sur Instagram que j'ai l'air bien, puis que je trempe pas en dedans quand que je relève mon Cardex le matin. Fait que je pense que tout le monde qui est en début de pratique, là, t'espère que tu aies les patients faciles de la journée quand tu rentres, là, parce que tu le sais pas. Il y a plein de choses que tu sais pas encore que tu vas découvrir. Fait que c'est vraiment grand. Faut qu'ils se donnent le droit d'être stressés, puis de se sentir, ben c'est ça, se sentir stressé, se sentir surchargé le matin avant de rentrer. Je pense déjà juste de le reconnaître là, que c'est quelque chose de dur qu'ils vivent, de difficile, que ça prend de l'adaptation puis du temps. T'as pas le choix. Faut que tu rentres puis que tu t'en fasses quelques-uns encore là, avant d'être à l'aise, là, tu sais.
Exact. Puis, tu sais, la période de stage, c'est tellement demandant, mais en même temps, c'est enrichissant aussi parce qu'on a la possibilité de voir plein de cas, plein de choses différentes qui vont faire en sorte que dans ta boîte à outils, tu vas aller chercher plein d'informations. Tu as eu un, deux, trois patients diabétiques. Tu as eu la chance d'avoir de gérer un patient qui a commencé un OAP. Ah, tu as eu un patient X. Donc, toutes ces petites affaires-là que tu as eues en stage, que tu as eu à gérer pour une première fois, ben, au moins quand ça va t'arriver, quand tu vas être soit CPI ou jeune infirmière, tu vas dire, ah oui, j'ai déjà eu ça, un patient comme ça. Au moins, ce ne sera pas la première fois. Donc, ça aussi, c'est de garnir notre coffre à outils. Le coffre à outils, il est pas mal vide quand on commence. Fait qu'il faut rajouter du matériel dedans. Donc, plus on va rajouter, plus ça va nous aider à être en mesure de régler une problématique ou de gérer un patient qui va compliquer. Les patients qui vont bien, ça va bien. Mais un patient qui va pas bien, bien, il faut savoir pourquoi, puis il faut savoir intervenir. C'est là aussi que c'est très stressant.
Oui, ça se construit, une boîte à outils, ça prend du temps. Il faut la remplir. Puis des fois, ça nous prend plus qu'un marteau, puis plus qu'un tournevis dans la même boîte à outils. Faut répéter les choses là, pour se rendre à quelque chose de bien construit à la fin, définitivement.
Exact. Puis notre coffre à outils, on va le remplir, puis on va le modifier tout au long de notre carrière. Et là, on va aller chercher peut-être au lieu d'un petit marteau bien ordinaire à 199, bien là, on va aller chercher un plus gros qui coûte plus cher. Et qui peut-être qui va mieux, qui a une meilleure prise. Donc, ça veut dire qu'on c'est un peu comme notre jugement clinique. T'sais, on a un jugement de base, mais on va aller se perfectionner. On va rajouter de l'information. Donc, à chaque fois qu'on va faire quelque chose, soit en évaluation, en intervention ou en continuité des soins, bien, on va aller rajouter de l'information dessus. Donc, puis comme ça, bien, à un moment donné, tu vas devenir compétente. Puis après ça, tu vas devenir expert dans ton domaine.
T'as-tu des trucs, toi, Sylvie, là, en attendant qu'on se rende à justement avoir une coffre à outils assez développée, puis qu'on se sente à l'aise là, devant les. Comment on peut faire pour justement moduler un peu ce stress-là, puis se sentir quand même assez confiant dans notre début de journée, sachant qu'on est novice, là? Qu'est-ce qu'on peut faire pour se sentir plus solide?
Ben, c'est de s'organiser. Je pense que la première chose, ça va être d'être bien organisé, puis d'être capable de gérer nos priorités. Comme novice, on veut tout faire. On a été habitué parce qu'on a fait des stages à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'évaluations, donc d'aller rechercher tout ça, d'aller fouiller dans un dossier, puis de l'éplucher à grandeur. Mais lorsqu'on arrive comme CP, j'ai 10 patients, je ne peux pas aller toucher tous les dossiers. Donc, il faut se faire des priorités, avoir avec nos patients, bon, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est ma priorité? Donc, et ensuite de ça, ben, on va regarder avec la routine de travail. Mais c'est sûr qu'il y a des choses que lorsque je vais aller faire l'évaluation d'un patient, c'est un problème respiratoire, je ne ferai pas nécessairement l'évaluation de la tête aux pieds tout de suite en commençant à 8 h 15. Et je vais dire, OK, bon, on va évaluer le niveau respiratoire, faire l'auscultation, la fréquence respiratoire, la saturation, puis on va gérer ça. Après ça, on va pouvoir peut-être aller chercher de l'information complémentaire. Okay? Donc, ce qui est un peu contre-intuitif de ce qu'ils vont avoir appris durant tout leur stage. Parce que quand ils sont en stage, ce qu'on leur demande, c'est de faire l'évaluation complète de ce patient-là pour être en mesure de voir toutes les possibilités de complications. Avec un patient, ça va bien. T'sais? Mais ça va bien. Encore, c'est relatif. Est-ce que tu es en première session ou en sixième? Un patient avec juste des signes vitaux en première session, c'est stressant parce que c'est la première fois que ça va te prendre 15 minutes à prendre des signes vitaux. Peut-être juste 15 minutes, juste ta tension artérielle.
Peut-être
Rendu en
plus,
sixième session, mais rendu en sixième session, prendre des signes vitaux, ça se fait comme ça, là. Tu as déjà acquis cette compétence-là de prise de signes vitaux parce que tu en as pris combien de fois?
ouais.
Donc, fait que c'est comme ça, tranquillement. C'est vraiment de faire nos priorités, puis de se donner le droit de ne pas faire tout ce qu'il y a à faire. C'est des choses que je n'ai pas eu le temps. Parce que les patients, quand on commence habituellement, les patients vont bien, début journée. Les complications, on ne les sait pas. Donc, est-ce qu'on est capable de se garder du temps dans notre horaire pour les complications? Pas tout le temps, pas quand on commence. Quand on commence, on a ce qu'il y a à faire de base, puis je pense qu'on en a assez pour notre journée. Okay? Donc,
Ouais,
fait que ça va être de dire, bon, ben, s'il m'arrive une complication ou un patient qui va moins bien ou qui a plus besoin de moi, qu'est-ce que je vais laisser tomber? Ou qu'est-ce que je vais être en mesure de déléguer pour réussir à finir ma journée?
ben, c'est super important de reconnaître nos limites puis de voir qu'est-ce qui n'est pas faisable dans notre temps, là. Puis moi, ce que j'aurais rajouté à ce que tu dis, c'est de demander de l'aide, de nommer ses besoins, tu sais. Souvent, quand on commence, on ne veut pas déranger les autres, on veut pas paraître comme celle qui n'arrive pas dans son temps ou tout ça, mais c'est super important de se retourner vers les piliers que vous avez sur votre corps de travail, tu sais. Il y a toujours une infirmière qui est un petit peu plus expérimentée là, sur le département. Il faut se retourner vers celle-là, puis quand on se sent surchargé, poser des questions. Si on a des choses qu'on ne sait pas quoi faire, demander. Conseil, demander qu'elle nous aide là, pour certaines choses, puis on repère les infirmières là, chez qui on peut se retourner, mais l'équipe est vraiment importante. Il faut qu'ils se retournent vers des gens puis qu'ils nomment leurs besoins. Parce qu'on peut. Et les autres, ils devineront pas que tu es surchargé ou que tu es stressé, tu sais. Faut que tu nommes
Effectivement.
là, que tu as besoin de ralentir, que là, ce patient-là, il est peut-être trop dans ta section. Parle-en à ton assistante, dis qu'est-ce qui va pas. Puis on a peur de déranger puis de paraître comme celle qui s'adapte pas bien. Mais je pense que si on nomme pas nos besoins de soutien, après ça, l'équipe qui est en place là, de conseillères, ils peuvent pas mettre des mesures en place pour nous soutenir si j'ai pas nommé que j'avais des enjeux, t'sais. Fait qu'il faut demander de l'aide, là. Moi, je rajouterais ça, là, mais pour se sentir solide, il faut dire c'est quoi nos besoins, puis après ça, pour aller avoir les outils, il faut les demander.
Absolument.
Ouais.
Mais ce que j'ai goût de dire aussi, c'est parce que des fois, on devient ambivalent avec le côté, ben, je veux me faire intégrer dans mon équipe de soins. Donc, fait qu'il faut que je paraisse forte, il faut que je paraisse que je connais tout, que je suis efficace. Mais si vous ne l'êtes pas, il faut le dire parce que c'est ce qui va vous rendre plus, ben, pas plus humaine, mais plus. Oh, j'ai pas le vulnérable, c'est pas le bon mot non plus, mais tu
C'est
sais,
attachant aussi là, de
ouais.
voir qu'on est normal, tu sais, on est normal. Parce que c'est rare un CP qui va rentrer puis qui va bien performer, puis qu'il n'y aura jamais de questions. Puis... Donc, ça normalise. Si tu as des questions, puis c'est sécurisant aussi, moi, en tant qu'infirmière, là. J'aime bien mieux quelqu'un qui me pose une question, qui se fait valider aussi pour quelque chose, plutôt que de ne pas se faire valider du tout, d'être en mode autonome, puis qu'après ça, on se rend compte que les soins ont été moins bien faits ou qu'il y a des enjeux de sécurité, tu sais. Des fois, cette confiance-là est too much, tu sais. Il faut se faire valider. C'est sécurisant, en tout cas, pour l'équipe quand les gens se font valider, je pense.
Oui, aussi, parce
Ça
que
permet
c'est
la
normal
confiance.
de pas tout savoir en commençant. Donc,
Ben oui.
Et en même temps, bien, ça permet aussi de voir comment les infirmières sur le département qui sont là depuis longtemps, comment ils réfléchissent. Ils vont te donner des trucs en même temps de comment organiser ta journée, comment régler, de dire, bon, ben fais juste ça pour ce patient-là pour l'instant, ça va être correct. Puis, t'sais, fait qu'en même temps, bien, on apprend de nos pairs, on apprend des gens qui ont plus d'expérience que nous. Donc, ce n'est pas de dire qu'on est moins bonne. C'est juste de dire, on va aller chercher le meilleur de chacun pour devenir à notre tour quelqu'un qui va être plus compétent, qui va améliorer sa compétence, puis qu'éventuellement va se retrouver dans la chaise d'une compétente puis d'une experte.
Oui. Une question que je pense qui peut vraiment aider, là, des fois, les étudiants à comprendre comment fonctionner, puis comment devenir infirmière compétente. Je veux fonctionner, c'est pas le bon terme. Mais c'est de demander à l'infirmière qui t'aide, là, celle qui est experte, justement. Bon, on s'en va dans une chambre, il y a un patient qui crash, puis elle lève les jambes du patient. Bon, fait que là, toi, moi, ça m'est arrivé, hein, ça. Ah, je vais partir de mon exemple. Quand j'étais début d'infirmière, je pense même que j'avais commencé à enseigner. Fait que c'est pour dire que quand j'ai commencé à enseigner, j'étais encore bébé infirmière, là. Je ne suis pas sûre que j'étais en mode experte, là, quand j'ai commencé à enseigner les soins, là. J'étais encore en début de pratique. Puis j'avais travaillé en neuro, donc les chutes de pression, on n'en a pas tant. En tout cas, c'est pas quelque chose que j'avais croisé beaucoup. Mais quand on est allé dans la chambre d'un patient avec un stagiaire que j'enseignais, il prend la pression. Puis, ben, la patiente est en chute de pression, là, elle est comme à 70, tu sais. Fait que l'infirmière avec qui on était, elle lui a levé les pieds tout de suite. Tu sais, elle l'a mis en Trendelenburg inversé. Inversé, pas inversé. Puis, j'ai comme fait, oh! Pour vrai, je n'avais jamais intégré cette information-là. Que quand notre patient fait une chute de pression, si on met ses pieds vers le haut, mais ben, ça va faire monter sa pression, puis bon. J'avais pas intégré ça du tout, moi. Fait que là, j'ai comme fait, oh, OK. Hein? Il y a beaucoup de choses à apprendre en début de pratique. Vraiment beaucoup. Première chose qu'il faut relativiser. Mais devant un geste comme ça, je pense que qu'est-ce qui peut nous aider à intégrer puis comprendre mieux, améliorer notre jugement, c'est de se tourner vers l'infirmière puis lui demander pourquoi ils font les choses. Peut-être pas à ce moment-là, quand on est dans l'action puis dans le aigu, tu sais, elle va faire des actions, tout ça, on va suivre, là, il n'y a pas de problème. Mais qu'après, on demande à l'infirmière, Sylvie, tu prendrais-tu 5 minutes de m'expliquer ton raisonnement, de comment tu t'es rendue à cette intervention-là? Bon, c'est pas tout le monde qui est capable de l'articuler aussi bien, mais en entendant plusieurs versions là, d'infirmières qui t'expliquent comment ils ont pris des décisions, mais tu construis ton jugement aussi un peu au travers de ça, mais c'est important de demander les pourquoi derrière les choses qu'on fait, tu sais. Puis des fois, justement, c'est instinctif pour l'infirmière de lever les pieds. Là, elle ne s'est pas posée de questions. Puis c'est instinctif pour plusieurs personnes, mais moi, j'avais jamais pensé qu'il fallait faire ça. Fait que...
Ben, l'instinct, c'est ça d'être expert. C'est de faire les choses, mais pas d'être capable de les expliquer parce que ça va de soi. Donc, fait, quand tu as un geste comme ça, de dire, bon, tu as levé les pieds, pourquoi? Elle va dire, ben, c'est parce qu'il faut faire ça. Hey, mais pourquoi faut faire ça? Mais là, elle va être aussi même à la CPI d'essayer de voir dans ses notions qu'elle a, de dire, qu'est-ce que ça va donner? Bon, ben, si je lève les jambes, il va y avoir moins de circulation au niveau des membres inférieurs. Ça va s'en aller plus dans la grande circulation. Va irriguer davantage le cerveau. Et c'est ça le jugement. Fait qu'après, quand tu le comprends, ben, ça vient de soi, puis de dire, ben oui, si la tension est basse, on lève les jambes.
On
Donc, ça va
s'entend que ça, là.
devenir un automatisme.
Ouais, à ce stade, c'est pas mal mon automatisme maintenant. Je l'ai intégré dans ma pratique, là, j'ai évolué. Mais tout ça pour dire que des fois, il y a des choses qu'on n'a pas vues beaucoup durant nos stages, durant notre formation complète, dépendant de nos expériences de stage, il y a des choses qu'on a vues plus, puis d'autres moins. Puis après ça,
Exact.
quand on travaille dans un milieu spécialisé, on voit certaines choses beaucoup, mais on ne voit pas beaucoup de cardio ou on ne voit pas beaucoup d'autres enjeux, tu sais. Fait que c'est normal là, que ces choses-là, les premières fois qu'elles arrivent, on se sent déboussolé. Puis même si l'infirmière a dit, ben là, c'est normal, là, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire, des fois, c'est bon de la faire réfléchir aussi, puis qu'elle nous l'explique, puis des fois, de revenir, puis là, elle va finir par trouver là, le fil directeur. C'est toujours des échanges intéressants, là, je trouve. Poser des questions. Il faut vraiment aller chercher vos experts sur les milieux, puis aller chercher cette expertise-là, puis s'imprégner de ça aussi comme stagiaire ou comme CPI, là, se tourner vers eux. C'est super important. Si on ne pose pas de questions, puis on se met en mode seul, là, c'est tough.
Non. Puis de faire juste les choses pour faire les choses, c'est pas mieux non plus. Parce que tu deviens une exécutante. Donc, de poser des questions, d'essayer de comprendre pourquoi on doit faire telle intervention, pourquoi on doit donner tel médicament. Donc, quand, tu sais, le mot pourquoi amène le raisonnement, et avec le raisonnement, la compréhension. Que si on n'est pas en mesure de savoir, même si on sait qu'il faut faire ça, si on n'est pas capable de l'expliquer, ben, faut aller, on se retourne soit devant nos mentors ou à ce moment-là, ben, on va faire la recherche, on a des volumes de référence à ce temps, le web, tu vas avoir de l'information partout. Tu es capable de trouver c'est quoi l'information. Ça s'appelle la formation continue en même temps. C'est d'aller chercher le pourquoi on va faire une chose, ben, tu deviens compétente. Puis après ça, une journée, ben, ça sera la jeune qui va dire à la plus vieille de dire, ah ben oui, on fait ça pour telle raison. Parce que là, tu le sais. Donc là, on va dire, oh oui, OK, alors, je savais pas. Je savais qu'il fallait le faire, mais je ne savais pas pourquoi. Je ne me rappelais plus pourquoi.
Oui. C'est vraiment. On est encore en apprentissage, hein, quand on finit, quand on gradue après nos stages, ça reste longtemps là, qu'à tous les jours, on apprend qu'on doit justement chercher le pourquoi puis se poser des questions là, à chaque chose qu'on fait. Fait que faut qu'on le reconnaisse, là, ça. Puis, je pense qu'il faut le normaliser. J'espère qu'on va réussir à le normaliser dans notre balado, Sylvie.
Ah, ben, je pense que oui. C'est d'expliquer les choses. Moi, ça fait partie de ce que j'aime transmettre. Donc,
Oui.
la vulgarisation des soins, de comprendre les choses. Parce que quand on comprend, ça devient logique. Donc, puis quand c'est logique, c'est quelque chose que tu vas faire. Tu ne feras pas quelque chose qui est illogique. Donc, si ça devient logique dans ta tête, dans ton processus de réflexion, c'est sûr que ça va venir de soi, puis tu vas le faire. Donc, tu n'auras même pas besoin de te le faire demander, ou que quelqu'un dise, hey, va faire ça, parce que ça va devenir comme un automatisme pour toi, parce que tu vas savoir que c'est important de le faire, parce que tu le comprends.
Oui. T'as-tu déjà entendu ça, là? Moi, c'est des étudiants qui me disent ça majoritairement, mais probablement des infirmières aussi qui disent ah, les soins infirmiers, c'est du gros bon sens. T'sais, ça, c'est des gens qui comprennent très bien, en fait, moi, j'ai l'impression, là, les gens qui disent que c'est du gros bon sens, hein, étudier les soins infirmiers. Moi, l'examen, là, c'est tout du gros bon sens, répondre à ça. C'est tout logique. Mais souvent, c'est parce qu'ils comprennent bien la bio, probablement derrière, la physiopatho, la pharmaco. Fait que les interventions pour une insuffisance cardiaque, quand tu comprends bien la physiopatho, ça devient super logique. Qu'est-ce que tu réduis, précharge, postcharge, tout ça. Bien, si tu comprends tous ces mécanismes-là, de mettre les jambes pendantes puis d'asseoir ton patient, ça devient logique. Ça devient du gros bon sens.
Parce que tu comprends pourquoi.
C'est ça. C'est ça.
Quand tu comprends pourquoi, ben tu vas vraiment faire la distinction entre deux choses. Puis vois-tu, tu parles de l'examen. Et à l'examen, des fois, des CP qui sont super performants, qui comprennent bien les choses, des fois, ont de la difficulté devant des questions simples. Ce qu'ils vont dire, ben, je peux pas prendre cette réponse-là à cette question-là. Ça va de soi, on fait toujours ça.
C'est bien trop évident.
Ben, c'est bien trop évident. Fait que c'est sûr qu'il doit y avoir d'autres choses. Pourquoi? Qu'on réfléchit comme ça. Ils réfléchissent comme ça parce qu'ils ont compris, ils ont intégré. Puis on l'a vu dans la COVID. Tu sais, comme ce qu'on entendait dans les médias, puis partout, c'était l'importance de se laver les mains. Ben, se laver les mains, là, c'est pour éviter la propagation des bactéries, t'sais? Puis des virus. Donc, il faut se laver les mains. Il y a eu des campagnes un peu partout à cause de ça. Et quand on a ça à l'examen pour une étudiante, dire qu'est-ce que tu vas faire pour un patient quand tu vas sortir de la chambre, se laver les mains, ils prendront pas ça comme réponse. Parce qu'on va dire, ben non, ça va de soi, il faut toujours se laver les mains en sortant d'une chambre. Ouais, mais pourquoi? Et quand tu comprends que c'est pour éviter de transmettre les bactéries aux patients d'à côté, ça devient logique. Là, ça devient intégré, puis on y pense pas. Mais si je ne le fais pas, il va avoir des conséquences. Avec la COVID, ça a été ça aussi moi, ça m'a fait vraiment un gros clash en disant, ben, vois-tu, même des gestes aussi banals que se laver les mains, il y a une raison à ça, mais ça, on l'a oublié.
Mais là, c'est une question d'examen que tu as déjà vu, ça, Sylvie?
Oui.
Mais moi, j'aurais choisi cette réponse-là,
Ben
c'est sûr.
non, parce que, mais ça reste la meilleure façon de prévenir les infections, se laver les mains. Mais je
Oui,
dis,
mais non,
j'ai pas vu l'examen, mais on m'en a parlé. Puis oui, c'était une des questions. Mais
ouais, c'est ça. Des fois, ça devient trop évident.
pourquoi ça devient évident? Parce qu'on enseigne ça en première année.
Ouais.
Hein? Mais pourquoi en sixième session, on a encore des étudiants qui sortent des chambres qui ne se lavent pas les mains?
Ah, absolument. Si on regarde les pourcentages là, dans les centres hospitaliers aussi, là, les audits, ça reste que c'est un acte essentiel puis qui est pas assez fait.
Mais
Les gens
pourquoi?
comprennent pourquoi il faut qu'ils le fassent, mais après ça, ils ne font pas. T'sais.
L'intégration, la compréhension d'un geste et donc d'une intervention, ben, fait que si la CPI est consciencieuse de ses autres patients, à chaque fois qu'elle sort de la chambre, elle devrait faire comme geste de se laver les mains parce qu'elle ne veut pas amener ça chez un autre patient.
Oui.
Hein? Donc, si c'est intégré, puis si tu comprends l'explication, tu dis, je veux vraiment que je fasse attention à mes autres patients, mais tu vas le faire. Si tu ne le fais pas, je veux dire, à quelque part, si tu n'as pas des soins de qualité, fait que si tu n'as pas des soins de qualité, tu risques de rentrer une épidémie dans un département. C'est aussi banal que ça, puis c'est rien que le lavage des mains. Et on est dans la base de la première semaine dès qu'on soit infirmier, là,
En
lavage des mains.
premier cours, hein, je pense que c'est nous autres, en tout cas, au cégep, c'est premier cours, lavage des mains, prévention des infections. Hein, on passe la petite lampe UV, là. Je suis sûre que tous les étudiants font ça, n'importe quel lavage, là. On passe la lampe UV pour voir si on se lave bien les mains. On apprend à mettre le PI, là, jaquette, gants, tout ça. C'est les premiers cours qu'on fait, hein. Et tantôt, on parlait du parcours des étudiants, mais. C'est fou comment, en première session, ces affaires-là, tu trouves ça gros. Tu sais, tu as fait ta première journée. Si tu sors de là, c'est lourd, là. T'es fatigué d'avoir entendu toutes ces choses-là. Tu as le goût de te coucher la première journée. Puis tu te dis, mais mon Dieu, j'ai eu 4 heures de cours sur le lavage des mains. Puis c'est gros comme sujet. Mais après ça, tu t'en vas en sixième session. Puis ça devient tellement simple de prendre les signes vitaux, se laver les mains, tout ça, ça devient instinctif. C'est ça, ce cheminement-là. Tu es devenu expert dans la prise de signes vitaux, là.
Ben oui.
Ouais, j'étais
Mais
avec
tu
des
vas
étudiants
devenir.
de sixième session là, récemment, puis ça fait partie de leur réflexion. C'est, t'as-tu vu tout le chemin qu'on a parcouru en 3 ans? C'est vraiment impressionnant, tu sais. Fait que ça, c'est valorisant. Après ça, mais on faut que se dire qu'on dédouble, là. Dans 3 ans, tu vas avoir fait autant de chemin. Après ta
Sinon
graduation,
plus.
comme CPI, tu sais, ou sinon plus, exactement, tu vas consolider plein, plein de choses, puis tu vas te retrouver autant à l'aise dans des choses qui te semblent si gros. Maintenant, en sixième session, gérer un code, gérer une transfusion sanguine, des fois, c'est aussi des techniques qu'on a moins vues, mais dans 3 ans, là, ça va être un autre monde.
Exact. Puis ta gestion d'équipe, ça va être la même chose. T'sais, au début, c'est long, ça prend facilement 2 ans là, pour te sentir à l'aise de gérer une équipe, de gérer autant de patients, de voir arriver les complications chez un patient, peu importe où tu vas travailler. Puis là, on parle beaucoup de soins actifs, mais les infirmières qui sont en longue durée, c'est pas juste 10 patients. Des fois, c'est un étage, c'est 2 étages de patients.
Ah
Donc,
oui.
il faut se laisser le temps. Et on ne peut pas tout faire. Il faut faire nos priorités. Puis nos priorités, quand on commence comme CP, puis nos priorités, quand on a 30 ans, sont différentes. Parce que quand tu as 30 ans d'expérience, tu vas peut-être faire beaucoup plus, mais tu vas avoir quand même des priorités à faire. Il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Quand tu es CP, c'est la même chose, mais nos priorités vont être un peu différentes. Donc, à laisser tomber. Moi, ce n'est pas la vitesse comme aller creuser le pourquoi du pourquoi, puis de compléter l'évaluation pour aller en chercher encore davantage. C'est là où moi, je dois laisser aller parce que j'ai un temps, j'ai 8 heures à faire dans ma journée, je ne peux pas en faire plus. Fait que je ne peux pas passer 4 heures avec un patient à l'éplucher comme j'aimerais le faire. Il faut vraiment éplucher son dossier, puis d'aller vraiment faire son évaluation complète, puis d'aller vraiment essayer de trouver le pourquoi du comment, puis tout ça. Je n'ai pas le temps. Donc, il va falloir que. Est-ce que ça fait que je donne des mauvais soins? Non. C'est juste que je vais aller prioriser. La journée où j'aurai plus de temps, je prendrai plus de temps pour aller fouiller sur un dossier qui m'intéresse, qui m'interpelle davantage.
Comprendre qu'est-ce qu'on fait. Là, on est beaucoup là-dessus, mais quand j'ai commencé, là, j'ai fait un stage, pas un stage, j'ai travaillé en gastrochir, peu importe. Je me rappelle pas exactement c'était où, mais je me rappelle que j'avais des patients qui avaient des drains qui sortaient de partout. Fait que tu étais dans une chambre, il y avait un drain qui draine brun. Puis là, je sais pas si c'est normal que ça draine brun. Puis là, après, puis fouille-moi, c'est quelle sorte de drain? C'est juste écrit drain dans le cardiaque, tu sais. Là, je change de l'autre chambre, puis là, c'est un drain qui draine blanc. Là, tu te dis, mais c'est normal, un drain qui draine blanc, je ne sais pas. Tu vas dans l'autre, tu as un autre drain, ça draine rouge. OK, bon, lequel là-dedans, c'est tout dans l'abdomen à quelque part. C'est challengeant, ça, ce changement-là de patient, là, tout ça. Fait que c'est une grande compréhension. J'espère qu'on va pouvoir outiller un peu nos CP puis nos stagiaires là, à comprendre plus les choses puis à cheminer là-dedans. Moi, c'est vraiment ce que je veux faire par ce balado-là, là. Fait que c'est un bon début, certainement.
Donc, c'est ça, de comprendre les choses. Donc, on va essayer de tenter de vulgariser vos problématiques, vos appréhensions versus les soins infirmiers pour devenir des infirmières qui vont commencer novices et qui vont ben, peut-être finir expertes en écoutant nos balados.
Ah oui, bien, on espère qu'ils nous suivent aussi longtemps puis qu'on fasse ça aussi longtemps que ça serait bien. Un petit 5 ans devant nous. Optimiste, là, je suis optimiste. fait qu'on veut amener une vision de positivisme aussi dans tout ça, de la bienveillance envers nos CPI puis nos stagiaires qui débutent. Pour moi, c'est vraiment important qu'on vous donne toute cette bienveillance-là puis de toute cette enveloppe-là que vous avez besoin pour bien progresser. C'est mon objectif au travers de ce podcast-là. Puis d'aller toujours se rapprocher de vous un peu. Je pense que Sylvie, puis moi, ben, on est tous les deux dans ce mode-là. On cherche toujours la proximité. C'est pourquoi on est actif sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi dans nos emplois respectueux. Voyons.
Respectif.
Respectif, j'allais dire respectuel, mais ça, hein, vous allez apprendre à me connaître. Je déparle beaucoup. Mais donc, dans nos emplois respectifs, on essaie de toujours garder cette proximité-là avec nos étudiants, puis nos clients, puis tout ça. Fait que je pense que pour nous, c'est vraiment quelque chose d'important, puis c'est une autre façon d'aller chercher la communauté étudiante, puis CP, le podcast, d'être créatif aussi, là. On est dans la création, puis les projets, moi, puis Sylvie, constamment. Fait que pour nous, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre. On est vraiment contents d'être avec vous pour la suite.
Donc, fait, sur ce, ben, on vous souhaite de recevoir des bons commentaires, des mauvais commentaires, écrivez-les. Donc, ça va nous faire plaisir. Puis, on va se revoir pour un balado très bientôt pour devenir de plus en plus expert.
Oui, mais puis s'ils ont des sujets qu'ils veulent qu'on aborde, bien, je vous invite vraiment à l'écrire, à nous écrire, à nous dire ce que vous avez le goût qu'on aborde, qu'est-ce que c'est vos besoins. On vous côtoie au travers de notre quotidien, mais je pense que des fois, il y a peut-être des choses auxquelles on ne penserait pas. Donc, n'hésitez pas à nous dire ce que vous voulez qu'on parle au travers de ce podcast-là. On est ouverte, on va toucher à tout dans les prochaines semaines. Merci beaucoup, Sylvie.
Bien, merci beaucoup, Karine. Puis on va se reparler dans un prochain podcast.
Oui, à bientôt!
Bye-bye. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Pas de panique, on revient très vite avec encore d'autres astuces et des histoires pour vous accompagner dans votre parcours d'infirmière.
Rappelez-vous que vous soyez novice ou presque experte, même Florence Nightingale a dû commencer quelque part.
À bientôt et prenez soin de vous comme vous prenez soin des autres.
Si vous avez apprécié cet épisode, pensez à nous laisser 5 étoiles ou un commentaire. Merci de faire grandir la communauté de infirmières, de novices à expertes. À la prochaine!